Chapitre 64. Le 23 août 2016, 21h01. Plus qu'une minute. Les yeux embués de larmes, Clotilde accélérait encore. Le téléphone avait valsé sur le tableau de bord. Il n'avait servi qu'à lui faire perdre de précieuses secondes. La presqu'île de la Révélata s'étendait devant eux, mais il fallait la contourner. Monter jusqu'au centre, redescendre un dénivelé d'une cinquantaine de mètres, une vingtaine de virages courts. Elle n'y arriverait pas. À moins que Jacob Schreiber ne soit en retard. Que sa montre, le cadran de sa voiture, son téléphone ne soient pas réglés sur la même horloge universelle. Même une minute, même quelques secondes pourraient suffire. Sur le fauteuil passager, Pape Cassanou se taisait. Le paysage se ferma le temps de quelques virages qui serpentaient pour franchir la base de la presqu'île, les Euproctes au sud, le phare au nord. Clotilde les avala, roulant au centre de la route, sans aucune visibilité, sans se soucier qu'une voiture puisse surgir en face. La ligne blanche n'était plus qu'un ruban empêchant la passade de se déporter, comme un adhésif auquel la voiture serait collée. Ils atteignirent le sommet, dépassèrent en soulevant un nuage de poussière quelques véhicules garés sur le parking de terre. Les touristes qui photographiaient le point de vue pestèrent contre le chauffard sans qu'elle les aperçoive. La route était dégagée sur près d'un kilomètre. On distinguait, après les 10 virages qui redescendaient, la corniche de la Petracoda. Clotilde la vit. Elle sentit la main ridée de Cassano se crisper sur la ceinture de sécurité alors qu'elle écrasait l'accélérateur au mépris de toute prudence. La Fuego Rouge venait d'apparaître un kilomètre plus bas, sortant de l'anse de Port Agro, s'approchant d'eux, doucement. Quelques centaines de mètres séparaient la Fuego de la Petracoda. En négociant le premier virage en quatrième, à plus de 80 km/h, Clotilde eut l'impression que les deux roues gauches allaient se soulever, que la Passat allait verser. Elle contrebraqua au dernier moment, trop, perdant de nouvelles secondes, moins que si elle avait rétrogradé. Son pied écrasa à nouveau la pédale de droite. Elle devait se concentrer sur la route, ne pas fixer au loin le point rouge qui se rapprochait. Impossible pourtant. Sa fille, sa mère était assise à l'intérieur. D'abord, elle eut l'impression que la voiture rouge ralentissait. Un bref espoir la submergea, qui s'éteignit aussi vite que la flamme d'une allumette en plein vent. La Fuego accéléra brusquement, pour s'engager de plus en plus vite dans la longue ligne droite qui s'achevait par le tournant meurtrier surplombant la Petracoda. Clotilde fit de même, ne freinant quasiment plus. Il ne restait que 4 virages à franchir. Elle se raccrochait à l'espoir qu'elle pouvait y parvenir, se retrouver face à la voiture rouge, lui couper la route, pour qu'elle la percute, qu'elle la catapulte dans ce ravin auquel elle avait survécu. Peu importait, si ce choc sauvait sa mère, sa fille. La Fuego gagnait de la vitesse avec la régularité d'une fusée sur sa rampe. Ils avaient rehaussé le parapet, se souvenait Clotilde. Elle l'avait remarqué lorsqu'ils étaient venus déposer les bouquets de serpolets. La balustrade de bois avait été remplacée par un muret de pierre haut d'un demi-mètre. Un véhicule, même lancé, allait s'y encastrer. Partir en tête à queue, en tonneau peut-être. Rouler sur la route entre murs et montagnes, telle une boule folle dans une rigole, mais sans basculer par-dessus. 2 derniers lacets, 300 mètres à peine. Trop tard. Dans une seconde, la Fuego allait percuter de plein fouet le muret la séparant d'un vide de 20 mètres, hérissé de milliers de rochers, rouges de sang, impatient d'étancher une soif vieille de 27 ans. Clotilde ferma les yeux. La Fuego était toujours là, sous ses paupières, dans le ciel. Son père prenait une main qu'elle croyait être celle de sa mère. Nicolas choisissait de sourire, de mourir en souriant. Cassano cria, saisit d'une main le volant de la Passat et braqua vers la gauche. La voiture cogna le talus, décapitant de nouvelles branches de férules jaunes qui s'écrasèrent en gouttes d'or sur le pare-brise, sans s'arrêter pour autant, ralentissant à peine. 21h02. La passade sautait trop, lancée à pleine allure. Les pneus percutaient les creux et cailloux du talus. Clotilde ouvrit les yeux, malgré elle. Elle vit la Fuego dévier légèrement de sa trajectoire, comme pour éviter de prendre de front le mur de pierre au-dessus du précipice. Un instant, elle crut que le véhicule fou allait glisser contre les pierres, les griffer, y perdre une aile, une portière, mais se fatiguer, être freinée, stoppée. Non, elle n'avait rien compris. Jacob Schreiber avait dû photographier 100 fois ce tournant, l'étudier, répéter sa sortie. L'Allemand ne fonça pas dans le parapet, comme son père jadis. Il lança la Fuego juste à côté, dans les rondins de bois qui surplombaient non pas les rochers, mais une crique au dénivelé plus abrupt encore. Les troncs explosèrent. La Fuego demeura un instant irréelle dans le ciel en apesanteur. Clotilde savait que sa mère était à l'intérieur, que sa fille était à l'intérieur. La Fuego retomba. Un à-pic vertigineux, là où, 20 mètres plus bas, la mer inlassablement se fracassait sur les rochers. C'était fini.